Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Lettre d'Albert Camus à son instituteur. Cette lettre fut lue hier dans la cour de la Sorbonne pour rendre hommage à Samuel Paty, alors que le pays saluait la mémoire de ce héros tranquille, selon les mots de Robert Badinter, repris par le chef de l'État. Cette lettre en écho à un livre que je venais de refermer, celui de Yasmina Kadra, qui dans son dernier roman, Le sel de tous les oublis, raconte l'histoire d'un instituteur. Bonjour Yasmina Kadra.
Bonjour.
Alors votre roman n'est pas du tout contemporain, il se passe dans les années 60, mais la mission d'un instituteur, d'un professeur me semble être toujours la même, que ce soit dans les années 60 ou en 2020.
Absolument, le professeur ou l'instituteur, c'est le phare. C'est le phare qui éclaire les opacités devant les enfants. C'est le guide qui nous mène sur la voie du progrès, de l'émancipation, de l'émulation. C'est aussi l'ouverture sur le monde. Quand on sort de chez soi, quand on est enfant et un jour on est amené à sortir de la maison pour rejoindre l'école, on rejoint la vie. Et s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est capable de nous orienter, on se perdrait.
Vendredi, vous avez ressenti quoi à l'annonce de cette exécution?
C'est quelque chose de terrifiant. Hein. Ça, vous savez, tous les attentats maintenant nous renvoient à ce que nous avons subi en Algérie. Hein. Combien de professeurs, combien d'ingénieurs, combien d'écrivains, combien d'artistes ont été assassinés chez nous pour rien, pour des sottises. Malheureusement, c'est la fragilité humaine est telle que n'importe qui peut devenir un monstre.
Vous pensez qu'en s'attaquant à un professeur en France, un professeur de l'éducation nationale, un seuil a été franchi?
Lorsqu'on s'attaque à n'importe quelle vie, on est déjà de l'autre côté du miroir, donc c'est que quand on s'attaque à quelqu'un dont la mission justement est d'aider des enfants à devenir grands, c'est encore plus terrible.
Alors dans votre roman, il y a un des personnages qui engage le dialogue sur la question de l'éducation et dit très explicitement l'enseignement du Coran est précieux, mais ce n'est pas un tort de s'ouvrir à d'autres horizons.
Ben oui, c'est même la vocation humaine, c'est ça justement, c'est de ne pas rester dans une culture, de ne pas être l'otage d'une idéologie, de ne pas s'enfermer dans une mentalité, mais de comprendre pleinement le monde qui est autour de nous.
Vous écrivez aussi Yasmina Kadra, et forcément, quand on lit ces mots-là et qu'on suit l'actualité, ils résonnent fortement. Le guerrier n'est pas celui qui part à l'assaut, un sabre à la main, mais celui qui met ses pas dans la marche du temps. Un livre sous le bras.
Absolument. On ne peut pas conquérir ou mériter une place dans les conseils des nations sans culture, sans éducation, sans intelligence. C'est pas possible. Parce que l'humanité, je suis vraiment désolé, mais c'est ce que je vois et c'est ma conviction. Pour accéder à la race humaine, il faut vraiment être quelqu'un d'éclairé. Sinon, on se dilue dans l'espèce humaine.
Mais dans cette phrase, qu'est-ce qui est plus important? Quel est le mot qui compte le plus? Un livre sous le bras ou dans la marche du temps?
C'est indissociable. C'est indissociable. Si on n'a pas un livre sous le bras, on peut pas aller très loin. Donc, c'est pas dans la marche du temps, c'est tout simplement la compagnie avec le savoir, avec la transcendance, avec la tolérance, avec l'ouverture, avec tout simplement la vocation d'être utile aux autres.
Yasmina Kadra, vous avez eu un professeur ou un instituteur qui a compté dans votre vie?
Oui, absolument. Oui, j'en parle dans l'écrivain. Et c'est un professeur de français qui se gossait de moi à chaque fois qu'il y avait une tournure de phrase un peu hardie. Et il faisait avec ses bras, écartez-vous pour que je voie cette merveille. Et c'est un professeur que j'ai revu presque 30 ans après, je suis allé le voir, j'étais de passage dans sa ville, et j'ai demandé à le rencontrer, je l'ai rencontré, j'étais très heureux de le retrouver, vraiment, c'était magique. Un professeur, écoutez, aujourd'hui en Algérie, mes professeurs vivants sont de grands fans.
Vos meilleurs lecteurs.
Oui, ils sont des grands fans. Mais quand je suis devant eux, je ne suis plus l'écrivain, je suis tout simplement l'éternel élève. Donc il faut avoir une gratitude permanente, sempiternelle pour les enseignants.
Donc ce n'est pas du tout un hasard si le personnage de ce nouveau roman est un instituteur.
Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais chaque fois que je commets un texte ou un roman, ça coïncide avec quelque chose. L'équation africaine, ça a coïncidé avec l'enlèvement de cette humaniste qui était handicapée et qui est morte faute de soins. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre.
Mais c'est peut-être parce que l'actualité résonne en vous que vous avez une sensibilité particulière au monde.
Ah oui, absolument. Je m'intéresse à tout. Je suis très attentif à cette époque, à mon époque. Je suis très attentif à ce qui se passe. Je ne supporte pas les pétaudières. Je ne supporte pas les incompétences. Je ne supporte pas les experts sans solution qui défilent sur les plateaux de télévision. Je ne supporte pas le discours de la discorde parce que j'ai fait la guerre. Je sais ce qu'elle est et je sais que personne ne la mérite.
Et vous supportez quoi alors aujourd'hui ?
Je supporte l'art, l'émerveillement, la beauté, le cinéma, le théâtre, la musique, enfin tout ce qui met un peu de lumière dans notre vie.
Yasmina Kadra, on va raconter cette histoire, l'histoire de Adem, ses émois et ses effrois, là je vous cite encore, aujourd'hui dans De Vive Voix, mais après avoir écouté Loose and the Yakuza, premier album de cette rappeuse belgo-congolaise.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine, ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête, ou s'il serait, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loup sa part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana.
Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange.
La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na.
Loose and the Yakuza, extrait de son premier album intitulé Gore, c'est sur RFI et dans De Vive Voix. Émission dont l'invité est aujourd'hui l'écrivain Yasmina Kadra pour son nouveau roman, magnifique roman, Le sel de tous les oublis. Alors, on vous connaît, Yasmina Kadra, mais je suis sûr que certains auditeurs se disent quand même, c'est un drôle de prénom pour un homme. Donc, on va rappeler l'histoire. C'est votre pseudo, Yasmina Kadra, et c'est le nom de votre femme.
Oui, c'est aussi mon surnom de... d'écrivain, c'est pas seulement un pseudonyme, c'est un surnom, parce que je le considère comme un peu supérieur à mon nom. C'est ce pseudonyme qui m'a permis d'être un peu partout, d'être un citoyen du monde.
Et l'un des auteurs les plus traduits du monde de la francophonie, elle était d'accord, votre femme, quand même, vous lui avez pas dérobé son nom.
Oui, mais maintenant, elle me fait du chantage.
C'est logique.
Elle me dit, je vais écrire un bouquin, je veux reprendre mes prénoms.
Alors, votre nouveau roman commence avec une histoire de couple, mais alors, cette histoire-là est un peu plus compliquée, puisque la femme de Adem, le personnage principal, le quitte. Oui. Premier chapitre, et c'est un cataclysme.
Absolument, il ne s'attendait pas à ça, lui. Il était dans ce petit confort de seigneur, donc surtout à cette époque, même je crois aujourd'hui encore, il y a des hommes qui prennent les femmes pour des espèces de subordonnées éternelles, voilà, qui sont, les femmes sont là pour les servir, pour leur faire plaisir, et puis ils oublient que la femme est une personne à part entière, qu'elle a ses propres sensibilités, et qu'elle pourrait un jour se révolter, se rebeller, partir. Donc mon personnage ne voyait pas ça, il n'était pas mauvais avec elle, il aimait, mais d'un amour qui a fini par sombrer dans la routine. Donc il n'y avait plus cet enthousiasme, cet excès, il s'est un peu embourgeoisé.
Et elle s'en va pour un autre homme, ouais. et il va rester sans voix. Et il va rester presque 100 mots pendant 200 pages. Il n'arrive pas à dire qui il est et qu'est-ce qui lui arrive dans la vie.
Non, il a compris. Il a compris l'importance de la femme dans un couple. Mais c'est trop tard. Il s'est retrouvé dans une sorte de vide abyssal. Et il s'en veut. Il s'en veut terriblement. Et il est en dépression nerveuse. Certains lecteurs n'ont pas compris que ce bonhomme est malade. Il est malade, il ne peut pas être agréable. Il est devenu l'ennemi de sa propre infortune. Donc il est devenu plutôt l'incarnation de sa propre infortune. Et c'est tout à fait raisonnable pour moi de le mettre dans cette situation.
Oui, parce qu'il va tout quitter. Il va quitter son poste d'instituteur, il va quitter ses élèves, et il va partir en errance. Oui. Et le roman raconte cette errance émaillée d'un certain nombre de rencontres. Oui. Et c'est ça qui fait le sel de l'histoire, les rencontres qu'il va être amené à faire.
C'est un livre, c'est un test psychologique. Hein. Si un lecteur voudrait savoir qui il est véritablement, il faudrait qu'il fasse ce test. Hein. S'il garde de l'empathie pour le personnage, c'est que pour mon personnage principal, pour Adam, c'est qu'il est pleinement humain. Maintenant, s'il n'écoute que sa désespérance, que son désarroi, et en perdant de vue les autres personnages, quelque part, lui-même, il est dépressif.
Oui, mais vous dites que c'est un roman psychologique. Moi, je trouve que c'est plutôt un roman quasi philosophique.
Oui, absolument.
Où l'on parle beaucoup de l'âme, qui est notre seule possession, de la beauté du chant des oiseaux, ou du sentiment d'exister, tout simplement.
Pas de la beauté des chants d'oiseaux, des oiseaux, non. Non, pas ça du tout. C'est au contraire, c'est le besoin ou la nécessité absolue de toujours rebondir. La résilience, la rédemption se doivent d'être un petit peu nos béquilles. À chaque fois qu'on tombe, il faut apprendre à se relever.
Et il y a dans ces rencontres, il va en faire beaucoup, hein, une rencontre très particulière avec un homme à la fois petit et immense,
oui.
Un nain,
Little Big Man,
qui vit dans une caverne en ermite qui s'appelle Michel. Et c'est une rencontre magnifique parce qu'en fait ce sont deux hommes, mais ce sont deux destins, ce sont aussi deux façons d'incarner la vie.
Oui, deux extrêmes. C'est la rencontre de deux extrêmes. Mika, moi, j'ai adoré ce personnage. Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus bouleversé, qui m'a éveillé à moi-même. C'est quand même étrange. Hein. On crée un personnage et d'un seul coup, ce personnage nous devient une espèce de gourou mais éclairé. Hein. C'est pas le gourou enténébré, mais voilà. Il m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur la nécessité pour moi d'être courageux, de ne jamais baisser les bras et de continuer de croire dans ce que je fais. Parce qu'à un certain moment, on commence à douter. On doutait de l'espèce humaine, on doute du mérite. On ne sait pas si l'art est toujours quelque chose de fondamental. On ne sait pas si le talent est un critère de beauté. On ne sait pas. On est dans un monde un peu chaotique, assez nébuleux, par endroits assez opaque aussi. Donc voilà, lui, il m'a dit non. Écoute-moi et ne fais pas comme Adam. Écoute-moi et tu vas voir. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de belles choses autour de moi et en moi.
Mais c'est incroyable qu'un écrivain dise ça. Vous créez ce personnage et il prend comme une autonomie, il vous apprend quelque chose de vous-même. Ça,
oui.
Ce serait quoi? Ce serait comme un enfant qui peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes?
Non, quand j'écris, moi, je me dilue totalement dans mon texte. Je ne suis plus en train d'écrire, je suis en train de vivre une histoire. Et mes personnages parlent simultanément, on se découvre simultanément. Et c'est ça qui me passionne justement dans la littérature. Je crois tellement dans mes personnages qu'ils deviennent vrais. Ils échappent un peu à mon imaginaire et s'installent dans une réalité assez bouleversante. Voilà, c'est magique. Voilà, je crois que si on demandait à Joseph Kessel qui était ses plus proches amis, il citerait certainement un de ses personnages.
Alors c'est vrai que ce Mika, ce nain magnifique, on aimerait qu'il reste plus longtemps dans le roman, mais non, Adem va partir un peu plus loin, il va faire d'autres rencontres. C'est une rencontre essentielle, mais on aimerait qu'elle soit presque un peu plus longue. Vous allez le retrouver à un moment ou à un autre dans votre vie littéraire, ce Mika?
Ah, écoutez, je ne sais pas, mais de toutes les façons, on le rencontre un peu plus loin dans le texte. Mais je préfère qu'on garde de lui cette présence. Voilà. Quelquefois, vous savez, moi, quand j'étais sous les drapeaux, j'avais idéalisé le monde des intellectuels. Pour moi, c'était chaque écrivain incarnait véritablement son talent, son génie. Et puis j'arrive et je trouve que c'est un milieu aussi malsain que n'importe quel milieu interlope. Et je me suis dit qu'il est préférable de garder certaines choses dans nos cœurs plutôt que de les rencontrer.
Garder une certaine distance. Alors j'aimerais, Yasmina Kadra, que vous lisiez un extrait de ce roman. C'est justement à ce moment-là, c'est un moment de dialogue entre Michel, donc dit Mika, et Adem.
Mika rinça les derniers ustensiles, les rangea sur l'étagère et se mit à pomper le réchaud pour préparer du café. Il dit la voix grave. Beaucoup de gens se trompent sur leur compte, tu sais. Certains croient être ce qu'ils voudraient être et renient ce qu'ils sont vraiment. D'autres finissent par se rendre à l'évidence et mettent un peu d'eau dans leur vin. Si les premiers sont à plaindre, les seconds n'ont pas grand-chose à leur envier. Parce que personne ne se fait tout seul. Notre mérite est de l'admettre et notre excuse aussi. Je parie que tu étais quelqu'un de bien avant. Puis tu as été sévèrement floué. Et tu as perdu confiance dans l'espèce humaine. C'est quoi ton histoire? Toi qui étais jusqu'à ton nom. Est-ce à cause des horreurs de la guerre? Ou bien à cause d'une idylle qui aurait mal tourné? D'après toi? De toutes les façons, il faut réapprendre à vivre. Hein, comment réapprendre à vivre? En gardant la foi. Et quelle est la tienne, toi qui es en froid avec ton Seigneur? Hein, ne jamais me considérer comme mort avant d'être enterré.
Jamais me considérer comme mort avant d'être enterré. C'est pas ça le propre d'un roman philosophique, Yasmina Kadra?
Oui, j'ai essayé d'être philosophe dans ce texte parce qu'il faut convoquer ce que nous avons d'essentiel en nous. C'est un peu cette intelligence, cette lucidité qui quelquefois nous fait défaut et qui nous largue dans des situations qui qui nous paraissent insurmontables, qui en vérité ne sont que l'expression de notre pessimisme, de notre défaitisme. Donc, tant qu'on est vivant, je crois qu'il faut croire dans la vie, il faut jamais lâcher prise, il faut savoir se relever. Voilà, justement, nous avons cette faculté de nous relever. Pourquoi rester par terre?
Alors l'histoire se passe dans les années 60, juste après l'indépendance, mais le contexte politique ne surgit pas immédiatement. Hein, c'est plutôt vers la deuxième partie du roman que le personnage va rencontrer des corrompus, des responsables politiques qui pratiquent l'abus de pouvoir. Or, vous écrivez que c'est un temps où l'Algérie s'éveille au lendemain qui chante.
Oui.
Mais pourtant, on est dans les années 60 et vous décrivez la corruption, les abus. Le verre était dans le fruit ?
Le verre était dans le fruit, sauf que les Algériens ne voyaient que le fruit, et puis ils avaient cette faim qui leur faisait croire que tout est festin autour de soi. Et malheureusement, ça se passe comme ça dans tous les pays après la guerre, que ce soit en Europe ou bien en Amérique. Chaque fois que un malheur s'arrête, il y a tellement d'espoir, mais dans ces espérances-là, il y a des prévaricateurs, il y a des prédateurs, il y a des gens qui vont œuvrer pour le meilleur. Et pour tous, c'est d'autres qui vont œuvrer uniquement pour leur propre carrière et leur propre richesse.
Alors ce roman, le sel de tous les oublis et le roman d'une errance, on l'a dit, d'une dérive aussi de la part de ce personnage, d'un homme.
La quête de soi.
Ouais. Est-ce que c'est aussi une dérive et la quête de soi d'un pays ?
Pas obligatoirement. Là, il faut rester un peu dans le personnage. Tous les Algériens n'étaient pas dépressifs et tous les Algériens n'ont pas été abandonnés par leurs femmes. Mais non, il faut de temps en temps rester. Il faut se focaliser sur le personnage. Mais j'ai voulu que ce personnage évolue dans un espace assez illustratif de sa propre dérive. Donc, dans les années 60, l'Algérie était un pays fantastique. Les gens étaient merveilleux. Il y avait de la correction partout, il y avait de la courtoisie, il y avait de la générosité, voilà. Et puis parallèlement à ça, ou bien quelque part, au milieu de tout ça, papa, il y avait des gens qui ne pensaient qu'à leur petite gueule.
Mais est-ce que ce livre est-ce que vous aurez pu ou l'avez imaginé se passer dans les années 2000 ou 2020?
Oui, bien sûr, il pourrait se passer même en France. Hein. faut pas croire que la France est à l'abri de dérives. Elle est une république comme toutes les républiques, parce que elle est faite d'un peuple formidable, mais si ce peuple n'est pas bien géré par son élite, il pourrait très bien sombrer dans le chaos.
Alors, vous dites dans ce roman, Yasmina Kadra, que la lecture, c'est une façon d'observer les autres derrière un miroir sans teint.
C'est pas moi qui le dis.
Comment ça, c'est pas vous qui le dites?
Non, c'est mon personnage.
Oui, bon.
Il faut faire attention.
Donc, votre personnage dit cela. Donc, que dit l'auteur? Et est-ce qu'en vous lisant, on regarde l'Algérie derrière un miroir sans teint?
Non, moi, je suis profondément algérien. Je suis... très proche de ce pays, de mon peuple. Je suis dans la déchirure de toutes les déchirures et je suis dans l'attente de tous les miracles. Donc c'est mon personnage qui est comme ça. Moi, j'ai jamais été dépressif.
Cette Algérie, vous l'écrivez en français?
Oui.
Depuis toujours?
Non, j'ai commencé à écrire en arabe. Moi, le français ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, j'étais un cancre en français. Et je voulais devenir poète en arabe. Mais la générosité, l'attention, le respect de mon professeur de français m'a éveillé à sa langue. D'ailleurs, je le salue, Monsieur David Vincent.
Il nous écoute, vous croyez?
Non, mais on l'appelait comme ça. On l'appelait comme ça, bien sûr. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tous les cas, il est très vieux aujourd'hui.
Mais pourquoi vous l'appeliez David Vincent? Ça fait référence à une série où il y avait des extraterrestres.
Nous
dans
étions
les années
ces extraterrestres. Nous étions parce qu'on était, incontrôlables. On était vraiment très. On était des cadets. On était des enfants enfermés dans une caserne. On a été privés de nos familles, de notre enfance, de tout ce qu'ils faisaient justement, gambader les enfants dans les squares. On était des soldats à l'âge de 10, 11 ans. Donc, on acceptait pas. On n'acceptait pas cette situation et nous étions un petit peu les extraterrestres.
Donc l'instituteur, vous ouvrez une fenêtre. Alors, de génération en génération, il y a en Algérie...
Son vrai nom, c'est Vincent Davis.
Vincent Davis.
C'est pour ça qu'on dit David Vincent.
De génération en génération, il y a une histoire de la littérature algérienne francophone. Et écoutez, Moheb Dib, c'était en 1963 à l'occasion de la sortie de son roman « Qui se souvient de la mer ?»
Il faudrait encore un temps d'habitude, en somme, habitude qui n'est pas encore prise, d'écrire en arabe, de publier en arabe. Et il faut créer des lecteurs également d'ouvrages en arabe, dont les œuvres qui verront le jour dans les années à venir seront des œuvres essentiellement écrites en français.
Est-ce que vous considérez que vous, avec quelques autres, comme Kateb Yassine par exemple, vous êtes la première génération des nouveaux écrivains algériens, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a déjà eu d'autres avant vous?
Eh bien, effectivement, nous ne pouvons pas faire abstraction de la génération qui nous a précédés, enfin de nos aînés immédiats, d'ailleurs ça n'est même pas à une génération de différence. Camus, Emmanuel Robles, et puis d'autres. Il y a Jean Amrouche.
Vous pensez qu'il y a une continuité entre la génération de Camus, qui était tout de même un écrivain français.
Oui, il y a une continuité. Et pour nous, la question d'origine, être autochtone ou enfin d'origine européenne, ne crée pas une coupure entre les différents écrivains algériens.
De sorte que vous revendiquez Camus, par exemple, comme un écrivain algérien.
Mais oui, essentiellement, enfin, c'est une chose qui ne fait pas de doute pour nous, enfin, qui n'a jamais posé de problème.
Mohamed Dib en 1963, Yasmina Khadra aujourd'hui en 2020, est-ce que vous validez ce qu'il dit? Est-ce que vous vous inscrivez dans cette tradition?
Le monde a beaucoup changé. Hein. Peut-être avant, dans les années 60, il y avait quand même, une espèce de cohésion de ce qui s'écrivait entre les Européens et les Algériens, les Autochtones. Pour que la littérature avance, mais aujourd'hui, vous savez, moi je suis vraiment désolé de le dire, moi je suis par exemple, je suis l'écrivain algérien le plus traduit, le plus lu au monde, mais je suis rejeté par le milieu littéraire algérien, je suis rejeté par le milieu littéraire français. Voilà, bien que partout où je vais dans le monde, que ce soit en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, au Japon, en Chine, c'est l'accueil, il est fantastique. Donc je ne comprends pas, je ne suis pas dans cette considération du tout et je ne sais pas ce qui se passe. Donc je suis incapable de vous dire quoi que ce soit.
Donc vous êtes un peu seul? Ou un peu isolé. Alors que vous avez une littérature, un style d'une très très grande maîtrise et un art du conte,
peut-être c'est à cause de ça. Avant, il y avait quand même la littérature. Je m'excuse de dire ça, mais le roman était à texte. C'est peut-être un pléonasme, mais avant, le roman était à texte. Aujourd'hui, le roman est à histoire seulement. Donc, le travail sur la langue, le travail sur la structure du texte, la façon de camper un personnage, de le faire parler comme il se doit et tout, ça n'existe que rarement aujourd'hui. Et moi, je suis dans cette quête névrotique de la beauté dans un texte. Et c'est ça, peut-être, qui me marginalise un peu.
Yasmina Khadra, vous avez achevé ce livre, je crois, pendant le confinement. Aujourd'hui, nous sommes en période de couvre-feu. Est-ce que ce sont des temps propices à l'écriture?
Ah non, j'ai pas du tout ce livre. Je l'ai écrit il y a des années. Vous savez, il y a des livres que j'ai écrits il y a 10 ans qui ne sont pas sortis parce que tout simplement les conditions ne le permettaient pas. Mais c'est vrai que la pandémie, pour moi, ça a été un très grand gêne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pour moi, un écrivain, c'est un confiné naturel. Donc, quand il écrit, il s'exile un peu quelque part et il s'approprie son texte. Donc, il est enfermé quelque part. Mais quand cette pandémie nous impose des contraintes, ça devient un monde carcéral. Et pendant la pandémie, je n'ai pas réussi à lire, je n'ai pas réussi à écrire.
Donc finalement, le Covid ne vous va pas du tout.
Non, ça ne va à personne. Hein. Ça ne va ni aux amours, ni aux rapports humains, ni à rien.
Merci beaucoup Yasmina Khadra. Le sel de tous les oublis est édité chez Julliard. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Yael Co, Nicolas Benita à la réalisation. Émission à réécouter bien évidemment sur RFI.fr et à partager sur la page Facebook RFI de vive voix. On se retrouve la semaine prochaine. Thank you.